Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Youktou Diego Aclopès. Dernier épisode de notre série consacrée à une technologie à haut débat, la 5G. Cette semaine, nous avons réfléchi à l'impact environnemental de l'Internet mobile de 5e génération et à ses promesses économiques. Certains voient déjà dans la 5G la machine à vapeur du 21e siècle. Mais à qui profitera vraiment cette invention, alors que de nombreux territoires en France n'ont toujours pas accès à la 4G, ni même à la 5G. À la 3G, la 5G va-t-elle mettre fin aux zones blanches ou accentuer au contraire la fracture numérique? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans l'heure qui vient. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler de l'Internet des villes et de l'Internet des champs, nous avons invité Philippe Vidal avec nous depuis Le Havre, géographe, professeur à l'Université du Havre et co-directeur du Master Urbanité. En fin d'émission, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho.
C'est une zone blanche ici. Les portables passent pas, le GPS non plus. Même les micro-ondes sont un petit peu capricieux.
Si on veut télécharger des films, même une petite vidéo, c'est la galère. Il y a des enfants aujourd'hui, des élèves qui font des devoirs par Internet. Il y a des gens qui font du télétravail chez eux et aux Sanguinières, c'est impossible.
Des jeunes couples qui voudraient habiter à Fort, à la question est-ce qu'il y a Internet? Quand on leur répond non, ils vont un kilomètre plus loin et là, ils ont la fibre.
On n'a pas beaucoup le choix. C'est soit satellite, donc avec des forfaits très chers, et une solution technique quasi équivalente à ce qu'on a aujourd'hui, soit des box 4G auprès des opérateurs de téléphonie mobile, mais des débits qui vont réduire comme peau de chagrin quand on sera tous connectés à la même heure.
Je vous entends plus très bien, monsieur le pauvre. Oui, allô, oui. Oui, je suis sûrement rentré dans une zone blanche. Ça, c'est un des charmes de Villefranche, avec les serpents et les arri... Oui. Non, je n'entends plus.
Bonjour Philippe Vidal.
Oui, bonjour.
On vient d'entendre plusieurs témoignages recueillis par nos confrères de France Info, ainsi que des extraits de la série franco-belge Zone Blanche. D'abord, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de fracture numérique?
Quand on parle de fracture numérique, on parle d'une vieille histoire en définitive. Cette histoire, elle vient de loin. Hein. Finalement, ça vient du début de l'Internet. C'est intéressant. Ce qu'il est intéressant de constater sur le temps long, c'est que le numérique finalement a toujours créé une forme de différenciation territoriale, c'est-à-dire des écarts en fait, des écarts de déploiement, de développement entre les territoires les plus denses, les plus urbanisés, donc les plus rentables pour les opérateurs, et d'autres territoires moins denses, de moindre densité, donc moins rentables pour les opérateurs. Et c'est vrai que on parle de fracture numérique parce que on vit ça comme une injustice, comme une rupture, assez rapidement, avec notamment le développement des usages justement de l'Internet à partir des années 2000 notamment. La connectivité des territoires, elle est devenue une sorte de marqueur fort dans l'imaginaire collectif d'appartenance à un même monde, à un monde connecté avec toutes les publicités qu'il y avait derrière autour d'IBM, le monde est une petite planète, etc. Et de fait, la fracture numérique, elle est apparue justement parce qu'elle a fait naître des besoins dans des territoires où jusqu'ici, il n'y avait pas ce besoin-là. Donc,
alors Philippe Vidal, peut-être si vous pouvez vous reculer juste un tout petit peu de votre micro, on vous entendra sans doute un petit peu mieux. Alors effectivement, on a compris ce que vous nous disiez sur cette fracture numérique, Philippe Vidal. Aujourd'hui, il y a encore des zones blanches en France, c'est-à-dire des secteurs géographiques où les téléphones mobiles ne captent aucun signal. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réalité de cette fracture numérique en France aujourd'hui ?
Non, mais cette fracture, bon, je ne sais pas si vous m'entendez mieux maintenant.
Tout à fait.
Cette fracture, elle se réduit quand même, parce qu'il y a une antériorité maintenant du déploiement de toutes les solutions numériques qui permettent effectivement de pallier l'absence d'une connectivité filaire par le non-filaire, notamment donc par l'internet mobile. Donc cette fracture, elle se réduit, mais un certain nombre de zones blanches persistent, et c'est d'autant plus d'ailleurs gênant pour ceux qui vivent cette fracture dans les zones blanches.
Pourtant, les opérateurs affirment, Philippe Vidal, que 99% de la population est en capacité de recevoir la 4G. Mais en réalité, ce n'est pas le cas.
Ah non, je ne vais pas aller sur le terrain des statistiques. Si je veux bien croire à les opérateurs qui annoncent que 99% de la population ont accès à la 4G. Le problème déjà, c'est que il y a quand même à ce compte-là au moins 1% de la population qui n'y a pas accès. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que quand même les individus sont des individus maintenant mobiles et connectés. Donc oui, ils ont peut-être accès depuis chez eux, et notamment depuis les très grandes villes, à cette 4G. Mais quand ils se déplacent en train, quand ils se déplacent en voiture, quand ils se déplacent dans des zones, disons, un peu plus reculées, peut-être qu'effectivement, ils souffrent, ils endurent cette fracture numérique parce qu'à un moment donné, momentanément, il y a cette rupture du signal. Et c'est ça, finalement, la fracture numérique. C'est non seulement une forme d'affaiblissement du signal numérique et parfois même une forme de rupture du signal numérique. Donc je pense que la bande de son qu'on a écoutée au tout début témoigne effectivement de ce petit pourcent de la population qui n'accède pas, mais qui en souffre. Et je pense qu'effectivement, dans un monde connecté, dans une société en réseau, il faut pouvoir penser à ceux qui en sont exclus, sinon effectivement on crée de l'inégalité territoriale.
Selon l'UFC Que Choisir, le top 5 des départements les moins bien couverts sont la Meuse, la Guyane, la Creuse, la Manche et la Lozère. Et ce qu'il faut bien comprendre, Philippe Vidal, c'est que il ne suffit pas simplement d'installer une antenne pour mettre fin à une zone blanche, il faut que cette antenne soit puissante, et puis il faut évidemment de nombreuses antennes bien réparties sur le territoire pour éviter la saturation du réseau.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, il faut permettre une couverture, une continuité dans la couverture télécom, de l'internet mobile, puisque finalement, ce dont on parle jusqu'à présent, c'est effectivement cette question de l'internet mobile et pas de l'internet fixe, c'est-à-dire pas de la fibre optique, qui reste à ce jour le meilleur moyen de bien connecter les territoires.
Alors on va parler de la fibre optique, mais d'abord sur cet internet mobile. C'est dans ce contexte de fracture numérique que la 5G arrive. Or la 5G, Philippe Vidal, devrait très majoritairement réutiliser les sites de la 4G. Il ne faut pas s'attendre à une extension de la couverture grâce à la 5G.
Je n'en sais rien, parce que je ne suis pas vraiment dans les petits papiers ni dans la tête des opérateurs. Ce qui est sûr, c'est que la 5G n'est pas une technologie qui a été imaginée ou inventée pour profiter aux zones de moindre densité ou de faible densité. La 5G n'est pas une technologie qui a vocation a priori à résoudre le problème de la fracture numérique. C'est pas son objectif profond. Ce n'est pas de résorber cette fracture numérique dans le fameux pourcent des populations qui ne seraient pas bien connectées.
Son objectif, c'est d'être déployé principalement, voire exclusivement, dans les zones densément peuplées, Philippe Vidal. C'est-à-dire les grandes villes.
La difficulté, c'est de parler de... En fait, d'anglais, on place la question de la 5G sur la fracture numérique, alors qu'en fait, je pense pas que ce soit le référentiel dominant de la 5G. La 5G, elle est faite pour finalement se déployer effectivement principalement dans les grandes villes, dans les métropoles, déjà engagées assez largement dans une programmatique numérique ambitieuse de type Smart City. Pour continuer finalement cet engagement, pour l'étayer, l'engagement, pour l'équiper avec une nouvelle génération de technologies porteuses de toute une série de promesses pour rendre la ville plus efficace, plus intelligente, enfin, selon l'approche qu'on a de ce qu'est une ville intelligente.
Alors pour remédier à ces zones sans internet, le gouvernement a lancé un plan très haut débit de 3,3 milliards d'euros, justement pour généraliser la 4G notamment. C'est un plan qui vous semble à la hauteur des enjeux, Philippe Vidal ?
Oui, je pense que ça va dans, en tout cas, ça va dans le bon sens, notamment tout ce qui a trait à cette fameuse problématique, enfin de cette politique du New Deal mobile, donc qui a été promulguée, je crois, en 2018 et qui repose principalement, d'ailleurs, sur le déploiement de la 4G et qui n'intègre pas la problématique de la 5G pour ce qui concerne l'internet mobile. Hein. Mmh. Et effectivement, je pense que ça va dans le bon sens.
Un New Deal mobile qui a été signé, pardon, je le précise, entre les quatre grands opérateurs, donc Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free, l'ARCEP, qui est le gendarme des opérateurs, et le gouvernement, effectivement, en 2018.
C'est exactement ça. Donc effectivement, ces plans vont dans le bon sens. Bon, ceci dit, je pense qu'il n'est pas inutile quand même de rappeler qu'il y a, enfin, les plans en matière de développement numérique des territoires, d'aménagement numérique des territoires, ça fait quand même un petit moment qu'on en sort finalement. C'est un peu, je sais pas, le refrain d'une chanson qu'on connaît assez bien finalement sur cette question du numérique territorial en France. Ça vient après toute une série de tentatives de programmes de lutte contre la fracture numérique. Effectivement, il y a eu le plan France très haut débit en 2013, dont l'objectif était d'envisager le THD partout pour 2022. Donc là, c'est aussi sur le filaire. Ça vient après toute une série d'accords avec les opérateurs. Je rappelle juste que c'est le premier accord de mémoire entre l'État et les opérateurs pour résorber justement ces fameuses zones blanches date de 2003. Et à l'époque, c'était la 3G qui était concernée. Donc, alors c'est vrai qu'avec le New Deal mobile, il y a une nouvelle conditionnalité qui fait qu'à un moment donné, c'est intéressant parce que on demande aux opérateurs de porter une très grande attention aux zones mal desservies en leur imposant de déployer des antennes relais dans ces zones s'ils veulent par ailleurs opérer les zones les plus rentables. Mmh. Donc ça, je pense que c'est quand même une proposition, disons, de bon sens, hein, et qui semble aller dans le bon sens, y compris en termes de performance de connexion au regard des précédentes technologies disponibles dans ces zones-là et qui ont été d'ailleurs évoquées dans le cadre de la petite bande de son du départ. Mmh.
Alors à ce propos, je voudrais vous faire entendre le point de vue de Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, qui s'exprimait sur le sujet le 10 juin dernier.
Je constate que les Français restent globalement assez insatisfaits par la couverture qui reste insuffisante des territoires. Les opérateurs ont beaucoup déployé dans les zones blanches. Je considère que le New Deal est un instrument utile et efficace, mais manifestement, il reste à faire. Je pense d'ailleurs que le confinement a bien montré ce besoin. Il n'a fait qu'accentuer le besoin, puisque des Français se sont trouvés confinés dans des zones qui ne sont pas leur zone principale. Et en ont parfois souffert. Il faut donc, à mon sens, aller plus loin et plus vite. C'est pourquoi je propose que les opérateurs construisent 1500 ou même 2000 sites mutualisés, supplémentaires, dans les prochaines années, en plus de ceux qui ont déjà été construits dans le cadre du New Deal.
Philippe Vidal, c'est l'ARCEP, le gendarme des opérateurs, qui oblige ces derniers à déployer la 4G et maintenant la 5G dans des territoires ruraux ou des territoires d'industrie. Mmh. Expliquez-nous un petit peu ce qui est prévu. Je crois que c'est un quart de la 5G qui doit être dédiée à ces territoires ruraux ou d'industrie, avec aussi l'objectif d'installer la 5G sur la plupart des axes routiers. Ça, c'est aussi l'un des grands objectifs.
Oui, alors effectivement, c'est un des grands objectifs, notamment parce que la 5G est un moyen, sans doute, d'accompagner tout le travail, tout l'investissement industriel qu'il y a aujourd'hui autour des véhicules autonomes. Donc on sait très bien que la 5G présente un certain nombre d'avantages au niveau de la latence, du temps de réponse, au niveau du débit et au niveau de sa capacité à connecter plusieurs objets entre eux. Et les véhicules autonomes auront effectivement beaucoup besoin de la 5G pour pouvoir fonctionner en toute sécurité sur nos routes. Mais ça, on se projette quand même, c'est quand même un sujet très prospectif.
Mmh. Alors la lutte contre les zones blanches, Philippe Vidal, passe aussi, vous l'avez dit, par le déploiement de la fibre optique. Il y a cet objectif de mettre fin aux zones blanches d'ici à 2022. Or, ce qu'on constate, c'est qu'à l'heure actuelle, seuls 39% des foyers qui sont raccordés à la fibre se sont abonnés. Comment on explique ce succès en demi-teinte ?
Ben, on l'explique parce que peut-être, mais je ne sais pas si c'est l'explication in fine, mais peut-être que finalement les Français n'ont pas forcément besoin de très gros débit en ce moment. Et que c'est qu'une question d'usage. Et le jour où effectivement ils auront besoin de ces usages, le jour où par exemple va se déployer toute une série de propositions, par exemple autour de la télémédecine, voire de l'opération chirurgicale à distance, alors peut-être pas du dans le chez-soi, mais quand même, le jour où il y aura presque plus de systématisation du télétravail, de tout ce qui porte sur le télé-enseignement, le jour où peut-être on sera encore davantage dans des sociétés confinées, ben ce jour-là, peut-être qu'on va avoir besoin de débits très importants. Pour le moment, les débits sont assez satisfaisants, notamment dans les villes. Et c'est vrai que tout le monde ne fibre pas finalement son appartement ou sa maison, hein, en ce qu'on appelle le FTTH, la fibre jusqu'à la maison, tout simplement parce que les débits aujourd'hui dans les villes via le plan câble des années 80 ou via des systèmes d'ADSL assez performants, finalement suffisent à beaucoup d'usagers. Mais je pense qu'effectivement, à terme, les usages vont être de plus en plus gourmands en bande passante et qu'il va y avoir un abonnement à la fibre.
Excusez-moi. Le gouvernement affiche désormais l'objectif d'une France entièrement fibrée, en tout cas d'ici à 2025, et la fibre optique va être instituée comme un service universel au même titre que l'eau ou l'électricité. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Philippe Vidal ?
Déjà, ça m'inspire, ça me rappelle quelque chose. C'est un premier rapport français sur les autoroutes de l'information qui a été édité en 1994, je crois, à la documentation française, c'était le rapport Théry, qui avait été envoyé au Premier ministre, parce que c'était une commande du Premier ministre, et qui visait à justement équiper l'ensemble des foyers français et des entreprises à la fibre optique d'ici 2015. Donc on n'y est pas, loin de là, et je pense qu'il faut toujours rester méfiant, ou en tout cas prudent vis-à-vis de ces grandes annonces qui donnent une ligne d'horizon, une ligne d'horizon qui permet d'avancer aussi, mais on constate quand même que assez rarement cette ligne d'horizon elle est atteinte.
Et justement, pour permettre l'accès sans fil à Internet aux abonnés qui résident dans des zones rurales non desservies par la DSL, il y avait le WiMAX qui avait été lancé en 2007. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agissait et pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné?
Alors, le WiMAX, alors je ne suis pas un ingénieur réseau, hein, vous l'aurez compris, mais le WiMAX, je crois que c'est plutôt une solution haut débit, qui était une alternative à la DSL, que très haut débit. Donc le problème du WiMAX, c'est que effectivement, c'est aujourd'hui pas un genre de débit qu'attendent aujourd'hui les personnes et les entreprises qui sont situées dans des espaces isolés. Je dirais que c'est plutôt une technologie en décroissance, en perte de vitesse, qui n'a plus d'intérêt tellement pour les zones, disons, blanches ou les zones un peu isolées. Vraiment, la technologie mature aujourd'hui pour permettre à ces zones de bien se connecter, c'est la 4G. Donc le WiMAX, il faut en parler au passé, quoi. C'est pas ce qui va permettre effectivement aux territoires, disons, les plus isolés ou les de moindre densité, d'être partie prenante de cette fameuse société de l'information émergente, et avec tous les usages qu'on nous propose en termes d'e-administration, en termes d'e-commerce, en termes d'e-santé demain, en termes de réseaux sociaux aussi, hein, parce que les relations sociales sont très largement aujourd'hui médiées par le numérique. Bien sûr, il y a des effets un petit peu pénibles des réseaux sociaux et assez contre-productifs par rapport aux sociabilités, mais malgré tout, ça permet quand même au grand-père ou à la grand-mère de pouvoir communiquer avec le petit-fils ou la petite-fille, et ça, c'est y compris dans les territoires un peu isolés, c'est particulier. Intéressant.
On voit bien qu'il y a deux stratégies qui semblent être menées de front, Philippe Vidal, à la fois la stratégie qui consiste à lutter contre les zones blanches et à permettre un internet mobile ou un internet fixe dans des zones où il n'y a pour l'instant pas d'accès ou un mauvais accès, et en même temps déployer cette 5G dans les grandes métropoles avec un plan de la Commission européenne qui annonçait la société du gigabit pour tous d'ici à 2025. C'est comme cela que les choses se dessinent, Philippe Vidal ?
Oui, Tout à fait. C'est comme ça. Et c'est là qu'on voit qu'il y a finalement une forme de concomitance entre deux référentiels autour du numérique. Un premier référentiel qui est effectivement un référentiel plutôt défensif, de lutte contre la fracture numérique, de résorber cette fracture numérique, donc de permettre par des politiques d'accès finalement, puisque par des politiques d'usage, à ces territoires, disons, un peu plus isolés, d'accéder à cette connectivité territoriale, à cette bonne connectivité. Donc là, c'est le côté effectivement plutôt défensif de la politique qui est là pour résorber les problèmes. Je pense que ça serait quand même intéressant aussi qu'on pense les services de proximité pour ces territoires un peu isolés, concomitamment à au déploiement de cette 4G par exemple, parce que il y a sans doute des usages à inventer dans ces territoires. Il peut y avoir des usages spécifiques. Bon, en tout cas, il y a un premier référentiel qui est effectivement la lutte contre la fracture numérique qui n'a jamais finalement concerné les métropoles. On le sait, les métropoles n'ont jamais souffert de fracture numérique. Les métropoles ont toujours étaient les premières à servir, et c'est bien normal, c'est là où il y avait beaucoup de population, donc de la rentabilité pour les opérateurs. Donc la question de la fracture numérique n'a jamais été le propos des métropoles. Par contre, apparaît aujourd'hui un deuxième référentiel, disons depuis les années 2010, qui est le référentiel de la ville intelligente. Et là, on passe sur des logiques qui sont beaucoup plus offensives, positives, disons en tout cas d'un point de vue lexical, puisqu'il ne s'agit pas de lutter contre la fracture numérique, mais il s'agit de construire la ville intelligente. Et là, on voit bien que la 5G, clairement, est un moyen d'étayer cette construction de la ville intelligente, de la renforcer encore davantage. Et on ne parle pas, pour le coup, d'infra. On parle d'usage, de services qui vont pouvoir s'y déployer.
Alors, pour comprendre d'où vient la fracture numérique en France, Philippe Vidal, il faut revenir 40 ans en arrière, avant même l'arrivée d'Internet, lorsque la star des télécommunications, c'était le Minitel.
À tire-d'aile, le voilà enfin qui arrive. Le Minitel, celui que vous aurez chez vous, du moins dans un premier temps, se présente sous cette forme cubique, très sobre, de 25 cm sur 35 environ. Cette grosse boîte s'ouvre sur le devant pour faire apparaître un clavier. Dans l'avenir, il vous sera possible de disposer de l'ensemble du bottin français. Ce nouveau service, c'est important à savoir, sera en partie gratuit. Le Minitel présente également d'autres intérêts. En effet, le service rendu par la machine est beaucoup plus complet que l'annuaire papier. Exemple, vous cherchez le téléphone d'un certain monsieur Joly à Rennes. Vous l'écrivez à la fin IE, comme l'adjectif, alors qu'il s'orthographie Y. Malgré cette faute, si la phonétique du nom est respectée, l'appareil vous répondra et vous aurez votre numéro. Bref, toute cette aventure va demander encore bien du temps, ce qui fait qu'il faudra encore attendre quelques années avant que tous les abonnés jettent aux orties leur annuaire papier.
L'arrivée du Minitel dans les foyers français en 1982, qu'est-ce qui caractérisait l'accès aux services du Minitel par rapport à Internet, Philippe Vidal ?
Alors, il y a vraiment deux choses. Hein. Il y a d'abord la question de l'égalité territoriale. Avec le Minitel, qui fonctionnait sur un réseau classique RTC, le réseau en cuivre, hein, qui permettait l'accès au téléphone tout simplement, qui avait été grandement déployé dans le cadre du plan de rattrapage téléphonique des années 70, dans un contexte réglementaire qui était quand même très favorable à une politique d'aménagement du territoire, puisque la dimension de la rentabilité des équipements intervenait assez peu et on ne laissait pas le soin au privé de développer ces infrastructures. C'était vraiment le public qui développait ces infrastructures-là. Donc le Minitel, finalement, a pu se déployer dans tous les ménages français qui souhaitaient en disposer. Moi-même, je me souviens, j'étais dans une petite ville de France, donc Limoux, et je me souviens très bien à ce moment-là, j'étais un jeune enfant, que le Minitel est arrivé dans mon foyer. Et encore aujourd'hui, dans cette même ville, eh bien, je n'ai pas accès à la FTTH ou à la fibre jusqu'à la maison. Donc, le Minitel, ça a tout changé. Ça a changé résolument par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, effectivement. Puisque, à l'époque, dans cette proposition Minitel, il n'y avait ni centre, ni marge. Mais il y avait une couverture de même niveau pour chaque foyer. Dans la plus pure tradition française de l'aménagement du territoire, ce que l'économiste Eli Cohen appelait à l'époque le colbertisme high-tech. Et là, effectivement, il y avait C'est quand même extraordinaire, Mitel. On n'a pas pu malheureusement l'exporter trop, mais c'est quand même la première proposition aussi ambitieuse à l'échelle d'un État d'informatisation d'une société.
Alors qu'avec Internet, ce que vous nous dites, Philippe Vidal, c'est que les intérêts commerciaux prédominent sur l'intérêt général ?
Ben, disons qu'avec Internet, c'est avec Internet qu'est arrivée la fameuse fracture numérique. Effectivement, puisque l'Internet s'est déployé dans des zones rentables, puisque c'était le privé qui devait déployer ces infrastructures. Et pendant longtemps, le public n'avait pas l'autorisation de pallier ce déficit de présence infrastructurelle. Jusqu'en 2004, où il y a eu la fameuse loi du Code général des collectivités territoriales, la loi 14-25-1, qui a permis aux collectivités territoriales de devenir opérateurs d'opérateurs, c'est-à-dire en gros de déployer la fibre optique de la fibre noire et de la laisser ensuite opérer éventuellement via une société délégataire par des opérateurs qui ont exploité cette fibre payée par l'argent public.
Et la lutte contre la fracture numérique et l'accès à l'Internet mobile sont d'autant plus importants aujourd'hui que les technologies 4G ou 5G sont nécessaires dans l'industrie, on le disait, mais aussi dans l'agriculture. Cela offrirait des opportunités importantes pour les agriculteurs et les éleveurs.
Oui, il est clair que de toute façon, les usages qui restent à inventer autour du numérique sont très nombreux. En réalité, je crois que pendant trop longtemps, l'acteur public, dans son positionnement vis-à-vis du numérique, s'est focalisé sur la connectivité des territoires et a oublié d'investir le champ des services. Et de fait, d'autres acteurs ont investi ce champ des services, comme BlaBlaCar, comme Airbnb, comme toute une série de propositions. Et je pense qu'il est maintenant temps que l'acteur public, les collectivités territoriales, se dotent d'une réflexion pour investir plus largement le champ des services de proximité, parce que pendant un moment, quand même, les affaires territoriales, enfin le numérique via justement ce Web 2.0. Via les problématiques, les possibilités de géolocalisation, le numérique tel qu'il s'est déployé dans les villes, y compris dans les villes, a abouti à une situation où les acteurs publics, pour la première fois dans l'histoire des sociétés, finalement, ne maîtrisent plus vraiment ce qui se passe sur leur propre territoire. On a eu du mal à maîtriser l'essor d'Airbnb, on a du mal à maîtriser l'essor des trottinettes électriques, même s'il y a une loi qui est passée récemment.
Et donc vous appelez à une reprise en main par l'État, on vous a bien compris. On va poursuivre cette discussion, Philippe Vidal, dans un instant.
Babylone 21, 29, voulez-vous me passer Brigitte?
C'est une erreur, il n'y a pas de Brigitte ici.
Babylone 21, 29, je voudrais parler à Brigitte.
C'est une erreur, il n'y a pas de Brigitte ici.
Quería hablar con la señorita Brigitte.
Nada, Brigitte, ici, señor.
Dites, c'est Rodolphe, je voudrais seulement parler à Brigitte.
Mais il n'y a pas plus de Brigitte que de... Oui, c'est ça, au plaisir. Hein.
Brigitte,
délai, je voudrais lui dire un mot.
Eh ben vous savez ce que je vous dis, à vous, je vous dis.
Allô Brigitte, de Jean-Yann et Henri Salvador sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, nous continuons à parcourir les territoires à faible réseau en compagnie du géographe Philippe Vidal. Alors le problème de la 5G, nous dites-vous Philippe Vidal, c'est qu'elle se situe à la jonction entre le développement du territoire et l'aménagement du territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle différence vous faites entre les deux ?
Oui, alors, historiquement, l'aménagement du territoire, c'est quand même une affaire de l'État. Bon, c'est maintenant aussi largement une affaire des régions, mais historiquement, c'est une affaire d'État. Notamment après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est mis en place avec la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire, à l'action régionale. Donc l'idée de cet aménagement, ça visait prioritairement la notion d'égalité entre les territoires, ça envisageait de développer une meilleure répartition des richesses, une forme de meilleure, de plus grande justice spatiale, d'équilibre entre les territoires. Et typiquement, l'idée selon laquelle la 5G serait en capacité de résorber cette fameuse fracture numérique, on est typiquement dans cette philosophie de l'aménagement du territoire à la française, dans la grande tradition de cet aménagement. Mais finalement, la différence que je peux faire avec la notion de développement territorial et finalement aussi de développement local, c'est que là, ça renvoie à une philosophie un petit peu différente qui va positionner davantage la question sur la performance territoriale, l'excellence territoriale, ce qui de fait entraîne un rapport plutôt fondé sur la différenciation territoriale et les avantages comparatifs qu'un territoire peut présenter vis-à-vis de son voisin, par exemple, que sur une idée de solidarité ou d'équilibre territorial. Et je crois qu'effectivement, le débat aménagiste sur la 5G, mais comme sur toutes les autres, sur l'infrastructure télécom, finalement, il oscille entre ces deux logiques-là. Finalement, un peu le côté aménagement, l'équilibre territorial, de façon à donner au départ les mêmes potentialités de développement, à ce qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité des citoyennes devant l'accès au numérique. Et puis, de l'autre côté, effectivement, le développement territorial, où la 5G est perçue comme un nouveau moteur de l'économie, de l'industrie,
un moteur de l'économie qui n'est effectivement, on l'a dit, pas accessible à tous. Et la fracture numérique ne concerne pas que l'accès à Internet, elle concerne aussi la capacité à s'en servir, ce qu'on appelle l'électronisme. Écoutons à ce sujet Philippe Marchal, il est président du syndicat de la presse sociale.
Près d'un quart des gens se déclarent mal à l'aise avec le numérique. À l'intérieur de ça, il y en a une proportion non négligeable qui sont amenés à renoncer à une recherche, à une démarche, à des prestations, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil, ils ne maîtrisent pas l'usage. On s'est aperçu que des jeunes étaient aussi touchés. Alors ça nous a beaucoup surpris, parce qu'on a, dans l'idée naturelle des gens, on dit les jeunes sont parfaitement au point, ils sont nés avec ça. D'abord, eux, ils ont parfois vraiment un problème d'équipement, ça c'est une réalité, mais aussi ils ont des usages plutôt liés à la distraction, ils sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, maintenant quand il s'agit de faire des recherches approfondies, ils sont un peu perdus. Il faut vraiment que les sites, l'organisation des sites, la construction des sites soient infiniment plus faciles et plus fluides d'accès que ça n'est le cas aujourd'hui.
Selon une enquête CSA réalisée en 2018, 23% de la population se dit mal à l'aise avec le numérique et toutes les catégories sociales sont concernées, Philippe Vidal ?
Ben oui, je pense que toutes les catégories sociales sont concernées. Souvenons-nous de la question un petit peu naïve de Jacques Chirac quand on lui parlait de souris. Je crois que il y avait eu un sketch d'ailleurs chez les Guignols de l'Info qui se moquaient de lui. Et puis plus récemment, Monsieur Sarkozy qui ne savait pas exactement ce qu'était le bon coin. Donc ça avait été relayé par les médias. Donc on peut pas considérer que ce sont des populations en difficulté.
Ce qui peut étonner, ce sont peut-être plutôt les jeunes, puisqu'on parle beaucoup de digital natives, c'est ces jeunes nés avec Internet. Et en réalité, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils ne sont pas si à l'aise que cela avec le numérique.
Ils ont plutôt des usages passifs quand même. Ils sont beaucoup sur les écrans, sur des réseaux sociaux. Ça reste, c'est vrai, des usages qui sont pas très, qui développent pas ce qu'on appelle la fameuse littératie numérique, c'est-à-dire la capacité à utiliser l'outil pour avoir des résultats qui apportent une vraie plus-value à leur vie. Le problème de cet illélectronisme ou de cette inégale capacité des populations à se saisir de toutes ces problématiques propositions numériques, c'est qu'il y a une forme de laisser, enfin il n'y a plus de formation autour de ces usages, de ces outils. Et finalement, l'outil, il est mis à disposition de tout le monde, y compris des plus jeunes enfants. Parfois, on peut chacun en faire l'expérience dans les transports en commun, par exemple. Et l'enfant ne développe pas une littératie numérique. Il consomme du numérique.
Vous dites qu'il n'y a pas de formation. Alors, en 2019, le gouvernement a mis en place le pass numérique, ces chèques formation dédiés aux personnes les moins à l'aise avec le numérique. C'était un budget de 10 millions d'euros en 2019. C'est 30 millions cette année en 2020. Il y a tout de même une volonté de permettre des formations qui vont dans ce sens, Philippe Vidal ?
Oui, je vous avez tout à fait raison de me reprendre là-dessus. Il y a aussi eu toute une approche dans le cadre des EPN, des espaces publics numériques, qui étaient donc des sortes de tiers-lieux, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux, qui avaient vocation à former justement les populations à ces objets, alors que justement il n'y avait pas de massification de l'objet dans le chez-soi. Il y a des initiatives qui sont menées pour favoriser l'inclusion numérique.
Et aussi dans le secteur associatif, je pense à Emmaüs Connect qui a été créé en 2013.
Exactement. Donc je veux bien, je fais amende honorable là-dessus, mais en même temps, ça procède d'une démarche un peu volontaire de la part de ceux qui veulent être formés. Et tout le monde n'est pas volontaire pour être formé à ces outils.
Et c'est d'autant plus problématique, Philippe Vidal, qu'aujourd'hui, les services publics sont de plus en plus dématérialisés. Donc c'est vraiment particulièrement excluant pour beaucoup de gens.
C'est clair que ça peut susciter une rupture d'égalité entre les citoyens face notamment à tout ce qui est de l'ordre de l'e-administration. C'est une réalité qui peut se constater partout. Et c'est vrai que la période qu'on a vécue là, de la société en confinement liée au Covid, à la Covid, c'est une période où vraiment on a vu que le numérique pouvait jouer un rôle important d'opérateur de lien social, de lien territorial, c'est-à-dire une sorte de mise en relation un peu inédite avec certaines populations, pour certaines populations entre leur territoire et les administrations et les services de proximité, etc. Mais chacun n'a pas eu la même capacité à être à l'aise avec cette alternative numérique. Et donc, c'est vrai que la perspective des sociétés en confinement, parce que c'est quand même une perspective qu'il faut peut-être prendre au sérieux, valide l'importance de prendre aussi au sérieux le numérique dans le fonctionnement nouveau des sociétés, des territoires. Et donc, il faut qu'effectivement, les gens soient en capacité de se servir de ces outils en toute connaissance de cause, c'est-à-dire aussi par rapport aux effets contre-productifs, notamment sur des problématiques de privacy, etc.
Alors, le confinement, effectivement, a été synonyme de décrochage scolaire pour 4 à 10% des élèves. Alors, une partie est liée au manque d'équipement, mais une autre partie est liée au manque de savoir-faire vis-à-vis de cet outil Internet. Alors, quel impact de la 5G sur la fracture numérique ? C'est notre sujet aujourd'hui. Est-ce que les inégalités, Philippe Vidal, risquent de s'accentuer entre les zones rurales et les smart cities, ces villes intelligentes qui devraient émerger grâce à la 5G ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces smart cities ?
Si on veut rester sur la 5G, il est clair, de mon point de vue, que les smart cities, en tant que projet urbain, sont les entités territoriales qui nourrissent le plus d'attentes vis-à-vis de cette 5G, notamment leurs promoteurs nourrissent beaucoup d'attentes vis-à-vis de la 5G. Et là, donc, on est vraiment, je me répète un peu, sur le référentiel de la Smart City. Moi, ce que je crois, c'est que cette 5G, enfin ce référentiel de Smart City, ça permet surtout à des élus, j'essaie de pas être, enfin, de mieux comprendre à quoi peut servir le numérique. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'alors, les élus qui parlaient de fracture numérique et qui ne souffraient pas de cette fracture numérique puisque leur ville était, ne s'investissaient pas vraiment dans des propositions numériques, notamment du point de vue des services, des usages. La Smart City a offert un cadre de compréhension, je crois, de ce que c'était que cette société numérique était en train de se déployer. Donc la 5G par rapport à la Smart City, c'est effectivement disons, une opportunité supplémentaire pour valider cette proposition Smart City.
En effet, parce que la 5G va permettre, devrait permettre de gérer un très grand nombre d'objets connectés au réseau. Donc apparemment, la Smart City a besoin de la 5G, la 5G qui ouvre aussi la voie à l'essor des véhicules autonomes, fantasme des séries des années 80. Dans K2000, Michael Knight, justicier des temps modernes, discute avec sa voiture contrôlée par un ordinateur de bord doté d'une intelligence artificielle.
Tu as dépassé la vitesse autorisée ?
Absolument pas, je suis à 55 miles. Vérifie au compteur.
Alors pourquoi sommes-nous pris en chasse ?
Par une voiture de police ? En théorie, je ne vois pas pourquoi. Cela dit, je soupçonnerais fortement le fonctionnaire à bord de vouloir remplir sa contravention quotidienne, fût-ce d'une manière irrégulière.
Tu as peut-être raison, mais de toute façon, je n'ai pas envie d'attraper une contravention quand c'est toi qui conduis.
Je te comprends. Je suis néanmoins curieux de savoir comment tu vas expliquer cela au fonctionnaire en question.
Je n'expliquerai rien du tout, je mets le turbocompresseur.
Avec plaisir.
La voiture autonome était une fiction. Elle pourrait devenir une réalité, Philippe Vidal, grâce au mécanisme de network slicing qui découpe le réseau en tranches et maintient les tranches prioritaires à un niveau de qualité maximale. C'est la 5G qui va véritablement permettre la voiture autonome.
Bah, c'est ce qui est prévu effectivement. Après, je pense que c'est pas prévu pour demain. Et la 5G sans doute contribuera à continuer à faire en sorte que les expérimentations en matière de véhicules autonomes puissent progresser, puissent continuer. Mais après, il faudra aussi, disons, accompagner ce mouvement technique d'un mouvement sociétal, parce que là, on touche à la problématique de l'acceptabilité sociale de ces véhicules autonomes. Est-ce que tout le monde sera d'accord pour entrer dans un véhicule dit autonome? Est-ce que tout le monde sera d'accord, je prolonge, pour se faire opérer à distance via des bras articulés grâce à la 5G, puisque c'est ce qu'on nous promet, hein, la téléchirurgie. Donc la 5G peut permettre techniquement peut-être une réponse technique, une solution technique à l'accomplissement des véhicules autonomes comme de la téléchirurgie par exemple. Après, il y a la question de l'acceptabilité sociale.
Et puis cet afflux de données, on va parler de l'acceptabilité sociale, mais cet afflux de données d'abord risque de poser des problèmes de gestion pour les communes, et ça nous entraîne à cette question qui est: qui devrait gérer ces données et qui en a la capacité?
C'est clair que la 5G va... déjà, il y a toute une série de données qui circulent dans nos villes et dans nos campagnes, mais encore plus dans nos villes que dans nos campagnes, via ce qu'on appelle le pocket sourcing, c'est-à-dire les smartphones justement des habitants, notamment via les capteurs qui sont déjà déployés dans les villes, via ce qu'on appelle l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets. Donc, la 5G va être va dupliquer ces données, va proposer énormément de données à la ville, aux villes, aux collectivités. Et effectivement, la question qui se pose, c'est comment gérer cette profusion de données. Et ça soulève toute une série d'enjeux, hein, qui sont quand même capitaux, des enjeux environnementaux, je crois, au premier rang de ces enjeux. Il y a quand même des enjeux environnementaux, parce que va falloir les stocker concrètement, ces données. Ça va produire effectivement beaucoup d'énergie, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'appareils connectés, plus de données, donc plus de capacité de stockage, donc plus de dépenses énergétiques liées au numérique, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est un premier enjeu. Ensuite, il y a un enjeu de souveraineté quand même, parce que ces données qui sont dans les territoires, ces données territoriales, il va falloir les protéger aussi d'une certaine façon. Alors, protéger les données territoriales, ou comment, qui va les protéger, pourquoi d'ailleurs, de qui? Donc il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu plutôt de souveraineté. Il y a des collectivités qui s'organisent pour ça. Nice s'est organisé pour protéger ses données, etc. La région de Normandie avec son Data Lab s'organise pour effectivement envisager cette gouvernance de la donnée. Donc ça, c'est une réalité aussi. Et puis il y a aussi la donnée comme enjeu en
tant que bien commun. Est-ce que la donnée peut pas être un bien commun? On parle d'open data notamment, c'est les données ouvertes, mais la donnée comme bien commun, donc les questions d'ouverture, de partage, de coopération, de transparence, de citoyenneté, de réappropriation, ces questions-là se posent. Mmh. Donc la donnée territoriale, elle se place finalement au cœur des nouvelles proximités. C'est vraiment quelque chose d'essentiel.
Ce qu'on entend.
Des dispositifs.
Ce qu'on entend bien, Philippe Vidal, pardon de vous couper, mais c'est qu'il y a à la fois des inquiétudes qui sont légitimes et des questions qui sont soulevées, et puis en même temps beaucoup beaucoup d'espoir suscité par cette perspective de la smart city, avec cette idée que le confort des citadins pourrait être très largement amélioré. Ce serait par exemple la fin des embouteillages et de la pollution qui les accompagne.
Oui, vous avez raison. C'est l'ambivalence, les paradoxes de la société numérique telle qu'elle se déploie. C'est un très très clair partage entre des incertitudes et des inquiétudes et des espoirs qui sont nombreux. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on ne rejette pas en bloc cette question du numérique au sein des territoires. C'est que on nourrit quand même des espoirs et que effectivement certains territoires qui disposent désormais d'accès à ces propositions numériques ont trouvé par le numérique une vraie plus-value territoriale. D'autres un peu moins d'ailleurs. Mais c'est vrai que ces outils numériques ont un côté pile et ont un côté... Un côté face, évidemment.
Effectivement, des résistances au déploiement de la 5G existent, et cela, vous l'avez dit, pour des raisons environnementales, mais aussi sanitaires, et également à cause de la transformation du paysage.
Ce qui était prévu initialement, c'était l'installation d'une antenne d'une hauteur de 75 mètres et qui devait détruire l'intégralité de cette parcelle de terrain et la moitié du terrain de foot, la seule aire de jeu des enfants dans le village. Il faut savoir que les gens dans ce village, voilà, sont des gens qui ont choisi d'habiter Maizel parce que le prix de l'immobilier est faible. Si demain une antenne de cette hauteur est implantée ici, à coup sûr, il y aura une dépréciation du patrimoine immobilier.
Aujourd'hui, notre village est fibré. Les enfants, les personnes ont la possibilité de se connecter par la Wi-Fi. On souhaite la téléphonie, mais encore une fois, pas à n'importe quel prix.
On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça peut nous apporter. En bien, en mal, il vaut mieux l'éviter tout près du village.
Voilà, on entendait le maire de Maizel, un village de 249 habitants situé dans l'Oise, suivi du témoignage de l'un de ses administrés. Ce rejet de la 5G par une partie de la population, Philippe Vidal, s'explique aussi par la méconnaissance des usages que pourrait permettre cette 5G. Car on observe un rejet bien plus fort, par exemple, en Europe qu'aux États-Unis. Ce qui a de quoi étonner.
Bon, en tout cas, c'est vrai que avec la 5G, le moratoire, ce dont on a parlé ces derniers jours, pour être un observateur un peu attentif des réactions des élus, notamment vis-à-vis des technologies de l'information et de la communication, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un aussi fort rejet d'un déploiement technologique en matière de numérique. C'est-à-dire que jusqu'à présent...
On n'a pas du tout observé ça pour la 4G ou la 3G, par exemple.
Voilà. Mmh. Et au contraire, les gens voulaient plutôt envisager la 4G comme un moyen, justement, de réserver la fameuse fracture numérique et les zones blanches. Alors, avec la 5G, c'est vrai que... peut-être parce qu'on ne comprend pas très bien l'intérêt, peut-être aussi que... Au contraire, les élus ont très bien compris que c'était plutôt intéressant pour les très grandes villes que pour les campagnes. Donc, il faudrait faire une étude pour savoir. Moi, intuitivement, c'est vrai que c'est intéressant, en tout cas, de voir qu'il y a ce rejet. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est assez nouveau. Et c'est vrai que pendant longtemps, ne serait-ce que dans ces territoires, les élus ont payé pour avoir de l'infrastructure. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment au travers des réseaux d'initiatives publiques, les fameux RIP. Donc, ils ont payé l'infrastructure et là, non seulement ils veulent pas la payer, mais en plus, certaines ne veulent pas du tout de ces technologies. Et c'est intéressant.
Est-ce qu'ils devraient pouvoir s'y opposer, selon vous, Philippe Vidal? Est-ce que les maires devraient être souverains sur le choix du déploiement de la 5G sur leur commune? En l'occurrence, ils ont été jugés incompétents par le Conseil d'État.
Oui, mais si le Conseil d'État les a jugés incompétents, c'est qu'ils sont incompétents, d'un point de vue du règlement et du CGCT, finalement.
Mais est-ce qu'on ne peut pas y voir un déficit démocratique ? Est-ce qu'il n'y a pas une participation, une consultation des habitants au niveau local qui devrait être faite ?
Pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait effectivement une espèce de tribune qui soit organisée pour effectivement dire concrètement à quoi va servir la 5G. Par exemple, on parle, certains géographes parlent de délaissement territorial dans les zones, notamment en termes de services publics, expliquer comment cette 5G va être un moyen de télétravailler, va être un moyen peut-être d'avoir accès à des services de soins distants, de qualité. Et à partir du moment où effectivement les gens seront convaincus, s'ils le sont, de ces nouvelles possibilités, peut-être qu'ils pourront ensuite se positionner en toute connaissance de cause. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut vraiment se positionner en connaissance de cause, objectivement. En tout cas, moi, je n'en suis pas capable.
Un dernier mot, peut-être, Philippe Vidal, sur ce que la 5G va changer, pourrait changer aux inégalités numériques qui persistent aujourd'hui en France.
C'est une question extrêmement...
Votre silence en dit long.
Non, je ne sais pas. Sur les inégalités, ben, si effectivement on décide de déployer massivement de la 5G dans les territoires, disons, mal desservis, ben déjà ça va réduire le déficit de connectivité, ça c'est une certitude. Voilà, déjà. L'inégalité que ça peut réduire, c'est l'inégalité devant le soin. Parce qu'effectivement, si on fait en sorte de développer, par exemple, des tiers-lieux médicaux dans des espaces où il n'y a plus de présence médicale, c'est quand même quelque chose de positif, parce qu'on réinvestit des territoires qui ont tendance à être un peu en déprise en ce moment. Donc oui, moi je crois, on doit croire au potentiel, pas de la 5G, mais du numérique au sens plus large, pour réinvestir ces fameux interstices territoriaux qui sont situés dans une sorte d'entre-deux et à qui on ne propose pas finalement d'alternative à la métropolisation. Quoi.
Merci beaucoup Philippe Vidal de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université du Havre et que vous avez écrit un article intitulé « La Smart City au risque du burn-out urbain » dans l'ouvrage collectif « Saturation, individu, collectif, organisation et territoire à l'épreuve » publié aux éditions Elia. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'Écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
En plein sommet européen, c'est la fin demain du 8e et dernier cycle de négociations commerciales post-Brexit. Moins de 15 jours pour trouver un accord, sinon ce sera le no deal, dit Boris Johnson. Le politique bloque-t-il l'accord économique ?
Eh bien, c'est ce que beaucoup pensent, tant les négociations ressemblent à une guerre de tranchées ces dernières semaines, à cause de la persistance de plusieurs points de blocage, les aides publiques ou la pêche au seuil de la date fatidique, et puis surtout à cause de la nouvelle loi sur le marché intérieur, cette Internal Market Bill qui torpille l'accord de Brexit, notamment sur l'Irlande du Nord, et que Boris Johnson a justifié par, je le cite, la menace d'un blocus économique européen sur le Royaume-Uni. Stratégie de fou ou bluff, analysent les connaisseurs. Pour les uns, le Premier ministre brandit le no deal comme un levier de négociation face à l'Europe. Pour les autres, c'est un nouveau gage politique pour les ultra-Brexiters.
Et les critiques les plus vives sont britanniques.
Eh bien, pas des moindres en tout cas. 5 anciens premiers ministres s'indignent de la perte de crédibilité internationale du Royaume, alors que Boris Johnson brisait les tables de la rule of law, but contre son camp, dit même Gordon Brown, insulte suprême et crime de lèse-majesté. Ces derniers jours ont aussi fait ressurgir le débat sur les coûts du Brexit. Plusieurs économistes britanniques ont estimé la perte de croissance de presque 6 à 8% sur 15 ans, soit 3 fois plus que la Covid. Si Boris Johnson veut remettre, comme il l'a déjà dit, un peu de punch dans les négociations, le bénéfice est moins clair que la sanction.
Pourtant, Boris Johnson pourrait vraiment rechercher un no deal, mais pour des raisons de stratégie économique.
Oui, alors là, on dit souvent que le Royaume-Uni a le plus à perdre, parce que 47% de ses exportations se font vers l'Europe, contre 8% seulement pour l'Union Européenne vers le Royaume-Uni. Mais on compare un pays à un sous-continent, et puis explique Stéphane Madol, même s'il s'agit d'une stratégie pour obtenir plus des Européens, il ne s'agit plus maintenant d'une négociation entre partenaires économiques, mais entre concurrents. Pour Londres, désormais, la compétitivité prime sur l'échange, d'autant plus, ajoute Stéphane Madol, que l'impact social ou économique du no deal pourra être dissimulé en quelque sorte par celui de la crise liée au Covid. Concurrent, c'est d'ailleurs la vision libre-échangiste historique des conservateurs.
Nous n'avons pas repoussé avec succès les frontières de l'État en Grande-Bretagne pour nous les voir ensuite réimposées au niveau européen par un super-État qui dirigerait depuis Bruxelles.
Voilà, c'était déjà Margaret Thatcher, vous l'avez reconnue dans son discours de Bruges en décembre 1988. Cette vision souverainiste se perpétue, elle a même sa Bible coécrite par plusieurs conservateurs de la branche thatcherienne, pro-entreprise en 2012. Il s'appelle Britannia Unchained. C'est ce qui exclut finalement toute solution norvégienne, c'est-à-dire hors de l'Union mais dans le marché unique, ou un compromis à la Theresa May, affirme Jill Rutter du King's College de Londres. Et c'est la raison aussi pour laquelle, à défaut d'obtenir le meilleur des deux mondes, comme le dit Barnier, Boris Johnson a une légitimité pour aller jusqu'au no deal.
Plus encore, Xavier, le Premier ministre voudrait faire du Brexit un outil pour la relance.
Oui, c'est ce que soutient encore Jill Rutter. Transformer la Grande-Bretagne en Singapour sur Tamise, peut-être, cependant pas comme un paradis fiscal, mais pour devenir l'État entrepreneur de l'économiste Mariana Mazzucato, qu'elle cite, à la fois donc investisseur, mais surtout pas bureaucrate, raison pour laquelle, dit Jill Rutter, il refuse Boris Johnson d'avoir les mains liées en matière d'aide publique et donc d'adopter les règles du marché européen. Dans le monde toujours, le chercheur belge Philippe Van Paris met en garde. Depuis 2019, Boris Johnson pratique déjà un dumping fiscal et un brain drain intensif sur l'Union européenne avec, dit-il, un gain net de plus d'un demi-million de cerveaux. Manœuvre qui risque de saboter le projet européen, continue-t-il, cette intégrité du marché que défend justement Michel Barnier.
Alors si l'Europe ne bouge pas, le Royaume-Uni peut-il faire des concessions?
Eh bien le calendrier est serré car l'ultimatum est fixé par Boris Johnson au 15 octobre. Vous l'avez dit, l'Union européenne, elle, a jusqu'au sommet du 17 pour valider l'accord. Mais en 2019, déjà, tout s'était joué à la dernière minute. Et les diplomates européens évoquent dans la presse britannique des négociations en sous-marin qui pourraient durer la semaine prochaine. Ensuite, les Britanniques multiplient les accords de libre-échange, 5 déjà cette année, dont un avec le Japon, une dizaine en pourparlers, notamment avec les États-Unis. Londres, qui vise 22 accords pour couvrir 80% de ses échanges actuels, pourrait vouloir conclure assez vite avec l'Europe. Quant à la pêche, dont l'Union européenne fait effectivement un casus belli, l'accord hier avec la Norvège est peut-être un message. Premier accord de pêche en 40 ans, souligne Londres, et à la différence du système européen, les quotas et l'accès mutuel aux zones de pêche seront renégociés chaque année. Le même jour d'ailleurs, Londres a fait un pas en proposant à Bruxelles une période de transition de 3 ans pour trouver une régulation sur ce sujet. Alors sans être trop optimiste pour ce 8e cycle de négociations, le poète ne dit-il pas qu'à la 7e fois, les murailles tombèrent? Et puis mardi, The Economist a prévenu, les Français seront les négociateurs les plus coriaces. Voilà qui met du baume au cœur.
Eh bien, double merci Xavier Martinet. On vous retrouve mardi pour un nouveau Journal de l'Écho.
My love is good.
Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On se quitte avec le dernier titre de Travis, All Fall Down. Demain, peut-on partager le travail? La question opposera les économistes Annie Jolivet et Bertrand Martineau. Et on partira également du côté de la Russie avec le roman de Zakhar Prilepin, Sankia, qui nous plongera dans le Moscou des années 2000. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.